franceinter.fr. La revue de presse de Camille Revel.
Nous sommes en ce samedi 15 avril, le jour du soleil. Il est à l'honneur dans vos journaux, pas en page météo, mais à la rubrique internationale. C'est un jour de fête nationale en Corée du Nord, le 105e anniversaire du fondateur Kim Il-sung. Pour fêter ça avec une démonstration de force, des unités militaires se regroupent à Pyongyang alors qu'un porte-avions américain fait route vers la péninsule coréenne et que Donald Trump promet sur Twitter de s'occuper de la Corée du Nord. Poker menteur entre les deux dirigeants. Titre ce matin Le Figaro. Après des années d'enlisement diplomatique, les mises s'alourdissent. Le risque de faire sauter la banque grandit, écrit Sébastien Faletti. De quoi inquiéter la Chine qui prévient la partie qui déclenchera le conflit portera une responsabilité historique. La priorité de Pékin, décrit le chercheur Antoine Bonda sur le site internet de l'Express, c'est de garantir la stabilité dans sa périphérie à travers sa position. Pas de guerre, pas de chaos. Et Donald Trump, lui, veut-il vraiment la guerre? Se demande Le Point. On croyait le président américain isolationniste, le voici interventionniste. Avec ce duel avec Pyongyang, après la frappe en Syrie, mais aussi le largage sur l'Afghanistan sur un fief du groupe État islamique de la mer de toutes les bombes, une bombe non nucléaire à la puissance inégalée dans l'arsenal américain. L'Afghanistan bombardé façon Trump, écrit Joris Bolomé dans Libération. Certes, le Pentagone avait donné son feu vert depuis quelque temps, mais peut-on lire dans Le Quotidien il y a une volonté globale de la part du président américain de montrer ses muscles. Et cette bombe, conclut l'article, entretient l'image d'un président plus impulsif que stratège. Si Donald Trump est adepte de déclarations fracassantes, voici maintenant un homme qui gouverne par le silence. Lionel Messi, le footballeur argentin, héros du Barça à Barcelone. Dieu se dit Messi, écrit François Musso dans Le Point. Attention, décryptage. Pendant les 10 premières minutes de chaque match, il marche en mastiquant un chewing-gum, raconte David, un supporter. Désinvolture ? Pas du tout. C'est du faux dilettantisme. Il cherche les points faibles de l'équipe adverse. Lorsqu'il baisse la tête et se tait, c'est qu'il est très en colère. Charge aux dirigeants du club de décrypter le message de ce grand taiseux protégé, même lorsqu'il est condamné pour fraude fiscale. Pas de football ce matin, mais du footing au programme de François Fillon et Emmanuel Macron.
Et oui, vous dites ça, Camille, parce que les candidats dévoilent leur recette miracle pour tenir le coup.
À 8 jours du premier tour, le sprint final est lancé. Paris Match et Le Figaro se demandent comment tiennent-ils. François Fillon pratique aussi le vélo, explique-t-il au Figaro. Ça permet de faire un peu baisser son agressivité. D'ailleurs, à bien comparer avec les 10 autres, il trouve qu'il est le plus en forme. Nicolas Dupont-Aignan, lui, nage. Marine Le Pen s'offre quelques pauses jardinage, arrête les sucreries et la cigarette. Viennent ensuite les adeptes de la sieste, comme Jean Lassalle ou Jean-Luc Mélenchon. Micro-sieste pour Benoît Hamon, et qui s'offre un petit verre de blanc avant chaque meeting. Conclusion du Figaro. De toute façon, la fatigue est plus facile à supporter quand les sondages sont bons. Pour cette dernière ligne droite, les programmes sont bien sûr au cœur de vos journaux. Ceux de 3 candidats sont dans l'Obs. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. L'hebdomadaire place au crible ses 3 programmes, emploi, politique diplomatique, école. Il n'y en a plus qu'un en ligne de Libération. Benoît Hamon, la grande explication, titre Le Quotidien. Le candidat socialiste y exclut tout retrait au profit de Jean-Luc Mélenchon. Je suis un combattant, dit-il, la politique. Ce n'est pas de l'arithmétique, un candidat très honorable, écrit dans son édito Laurent Geoffrin. Mais comme le disait François Mitterrand, quand on fait de la politique, il n'est pas interdit d'être habile. La Croix met à l'honneur les 6 candidats les moins avantagés par les sondages. Avec les 1800 euros de salaire minimum voulu par Nathalie Arthaud, le Frexit éclair de François Asselineau, l'Europe des Nations et des projets de Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou qui veut interdire les licenciements, ou encore Jean Lassalle, le territoire au cœur et la finance en ligne de mire de Jacques Cheminade. Pas de jaloux dans les pages du Monde qui passe au crible les 11 programmes et rapporte quelques inquiétudes de fin de campagne dans le camp d'Emmanuel Macron alors que les écarts se resserrent dans les sondages. Chacun y va de son idée de stratège, taper plus fort sur François Fillon, cesser de draguer seulement la droite ou tout simplement ne rien changer et arrêter de se faire peur. 8 jours donc encore pour une campagne qui déçoit la majorité des électeurs, tranche le Figaro par le biais d'un sondage. Trop d'affaires, pas assez de programmes.
Oui, affaires ou programmes, la campagne s'invitera sans doute dans les repas de famille.
Non, ce week-end de Pâques présidentiel, dispute en famille. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui recueille donc quelques témoignages. Dans la famille d'Eli, médecin parisien, le repas de famille a déjà mal tourné. Lui vote Emmanuel Macron, son frère Jean-Luc Mélenchon. Bilan, il m'a traité de taré, en disant qu'il est de droite et le symbole du grand capital. Même pas de temps de finir l'entrée. Des asperges pour information. Qu'on se rassure, le journal nous donne les bons conseils d'un psychologue pour éviter que le repas se termine en combat de catch. Voilà ce que nous recommande Jean-Michel. Lui est fixé des règles dès le début. Dès que ça monte dans les tours, on stoppe tout et surtout relativiser, se fâcher à mort pour des candidats éliminés dès le 23 avril. Ça ne vaut pas le coup. Donc, mieux vaut attendre les résultats du premier tour pour se jeter les asperges au visage. Un autre scrutin dans vos journaux ce matin, celui-ci en Turquie, le référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. La diaspora turque a déjà voté en Turquie, le vote est prévu demain. Dernier vote avant l'autocratie, prévient Libération, qui raconte une campagne à deux vitesses, avec sur les trois premières semaines de mars, 470 heures de direct, et qui auraient été consacrées au parti au pouvoir, l'AKP, sur les 17 chaînes de télévision privée turque, contre 45 heures pour les kémalistes du Parti républicain du peuple, le CHP, deuxième force politique, et 0 minute pour le HDP, formation de gauche pro-kurde. Pour Laurent Bodin dans l'Alsace, l'une des clés du scrutin de dimanche réside dans le choix que fera la nomenclatura turque, souvent favorable au parti AKP. À retrouver aussi dans l'Obs, ce très beau portfolio, le médecin sifflera trois fois. Reportage en Sibérie signé Émile Duc, la Sibérie sillonnée par 5 trains qui parcourent les régions les plus reculées pour offrir aux habitants un accès aux soins, des hôpitaux sur rail en quelque sorte.
Nous passons maintenant une porte.
La porte 315, celle du bureau du patron de la CRIM, la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Ses occupants vont déménager très bientôt dans des locaux tout neufs. Et dans le magazine du Monde, M. Philippe Broussard nous retrace l'histoire de ce bureau mythique où se sont succédés les plus grands criminels, mais aussi des invités comme l'interprète de Colombo, Peter Falk, ou bien le chanteur Serge Gainsbourg qui aimait à y venir bavarder. Dans cet article, on découvre aussi le coup de la moquette, à savoir, raconte un ancien du service, emmener les clients récalcitrants dans le bureau du patron, le seul à avoir de la moquette. Là, dans les années 1970, le commissaire Roger Poisblanc faisait asseoir le dit client, tournait autour de lui longuement avant de lancer, vraiment... « Je ne comprends pas comment vous en êtes arrivé là. » Et le suspect commençait alors parfois à craquer. Fini maintenant le coup de la moquette, le déménagement commence lundi. Gageons que la nouvelle adresse sera facile à retenir, 36 rue du Bastion.
C'était la revue de presse de Camille Revel. Merci Camille.